Bonjour, je crois que j'avais à peu près vu tout le monde avant, ceux qui sont sur Internet, bonjour aussi. Alors en fait, ce matin, je vais faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire. C'est vrai que moi, j'aime bien inventer mon propre vocabulaire et puis, etc. Je vais faire de l'archéologie. Je vais ressortir du vocabulaire qu'on n'utilise plus, que j'utilise plus. Parce que j'ai réalisé que le fait qu'on n'utilise plus le vocabulaire, ça c'est bien, mais on pouvait perdre la réalité qu'il y avait derrière, qui elle existe toujours. Hein. Alors, la semaine dernière, on avait plutôt des jeunes, avec des enfants, etc. Cette année, ce matin, il n'y a que des jeunes depuis plus longtemps, on va dire. Et puis, donc c'est du vocabulaire que vous connaissez sûrement, mais j'aimerais qu'on en parle et voir un peu, parce que je pense qu'il y a des gros pièges derrière, justement. On les a pas toujours associés avec ce qui était la réalité. Hein. Si je vous dis le mot sanctification, hein, vous sentez déjà là dans le dos comme ça fait les poils qui se redressent. Hein, ce genre de mot, soit on ne le connaît pas, soit quand on le connaît, on se dit ouh, c'est pas bien ça. C'est celui avec lequel on nous tape dessus pour nous dire qu'il faut toujours faire mieux et qu'on n'a pas fait assez bien. Hein. Mais pourtant, il y a une réalité derrière qui est belle, qui est très très bonne pour nous. Et en général, on disait en plus qu'il y en avait trois. Hein, je vois Marc-André qui dit oui, dans le credo c'était comme ça. Là, je l'ai pas lu, hein, mais j'imagine que c'était comme ça. On appelait ça la sanctification positionnelle, progressive et ultime. Waouh! C'est Indiana Jones, on cherchait la poussière. Mais la réalité qu'il y a là derrière, elle est très bien et elle est concentrée dans un très beau texte que j'aime beaucoup. Là, par contre, c'est le texte de la Bible, donc il n'y a pas de problème. 1 Jean 3, 1 à 3, et je vais le lire. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Alors, ce qu'on appelait la sanctification positionnelle, on va trouver d'autres mots pour ça, hein, mais c'était tout simplement la superposition des faits juridiques dans le domaine spirituel et du regard de Dieu qui, vous vous rappelez, la semaine dernière, j'ai parlé de rénovation, un peu influencé par mon chantier, c'est vrai. C'est deux choses qui se superposent. C'est quoi le regard juridique de Dieu? C'est le fait que ce que Christ a accompli lorsque Jésus s'est incarné, hein, le fait de venir mourir à notre place, de payer pour nous, fait que juridiquement, Dieu peut nous déclarer juste sans être lui-même injuste. Hein. Ce n'est pas comme un gouvernement corrompu qui dit, bon, j'efface la dette de mes amis et puis je garde celle des autres ou celui qui me plaît. Là. Non, il y a une dette à payer, il la paye lui-même et les comptes sont réglés à zéro. Hein. Donc ça, c'est une réalité. Et pour tous ceux qui, la seule chose, c'est qu'il faut consentir à ça. Donc, voilà. Pour ceux qui consentent à ça, c'est fait. Hein. C'est fait pour tous, mais il faut l'accepter pour endosser le chèque. La deuxième chose, c'est le regard de Dieu qui est hors du temps. Hein. Moi, j'ai une faculté tout à fait naturelle. C'est pas quelque chose que c'est pas un don spirituel, mais c'est que quand je commence une activité, surtout, je parle là maintenant, comme hein, je rénove ma maison, quand j'ai visité ma maison, dans l'état où elle était, pour ceux qui l'ont vue, hein, vieille maison des années 50, je l'ai vue finie. Mais finie, avec les plinthes, le silicone dessus, les trous bouchés, tout. Le jardin comme il fallait, avec ma permaculture, mon machin derrière, mes abeilles. Et donc, c'est relativement plus facile pour moi de vivre dans un chantier. Parce que je regarde, je suis dans le chantier, mais moi je la vois finie. Donc ouais, c'est une question de temps. Hein. Il se trouve que mon épouse n'a pas du tout cette option-là. Elle n'a pas la vision Photoshop du produit fini. Hein. Et pour elle, c'est difficile. Parce que elle se lève, oui, il y a le sac de ciment au milieu, les plaines ne sont pas mises, oui, l'escalier n'est pas peint, oui, la baignoire, elle est en travers dans le salon, etc., etc. Hein. Et lorsque Dieu nous regarde, il y a d'une part, je vais dire, le côté objectif, hein, juridiquement, Il peut nous voir parfait, top, fini, rénové complètement, parce que juridiquement, il a le droit, les factures sont payées. Et en plus, bah, c'est vrai que lui, il est hors du temps, c'est plus facile, il voit déjà le produit fini. Donc, lorsque Dieu nous regarde et qu'il dit « mes enfants sont parfaits », aucune difficulté, puisqu'il a le droit de le faire et il a la capacité de voir ce que nous serons vraiment. Hein. Parce que donc dans ces trois étapes qu'on appelait la sanctification en trois étapes, donc il y avait notre position, ce que je viens de parler, la sanctification ultime, j'ai fait 1-3, c'est fait exprès, c'est pas parce que je suis mauvais avec les chiffres, hein. Je le suis. C'est ce que Jean dit ici, dit « lorsque nous le verrons, nous serons semblables à lui ». C'est-à-dire qu'un jour, ma maison, elle sera finie. Un jour. Hein? Un jour, je vivrai en théorie, parce qu'en théorie, tout va bien. Et voilà. Donc, un jour, bah, on aura quitté cette terre, que ce soit parce qu'on est mort, tout simplement, ou parce que Christ est revenu. Et ce jour-là, bah, on le verra, et puis on sera parfaitement rénové. Hein? Et puis... ce qu'on appelait la sanctification progressive, c'est surtout de ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est le point 2 entre le 1 et le 3. Hein. Il y a la vision de Dieu qui dit « mes enfants, ils sont parfaits, ils sont terminés ». Il y aura la réalité un jour où ben, on sera parfait, il n'y aura plus de soucis. Et puis, il y a l'entre-deux. Ça s'appelle notre vie, c'est un voyage, c'est un chemin, c'est un parcours, appelez-le comme vous voulez. Mais c'est ben maintenant dans le temps, pour nous qui sommes toujours dans l'espace et le temps, on va de ce point où Dieu déclare ben, « ils sont parfaits » jusqu'au point où ça va se réaliser totalement. Hein. Sous le regard d'un Dieu, il faut se le rappeler, qui lui nous voit finis. Donc c'est pour ça que là, il y a quelque chose déjà de très très important. La première grosse erreur, c'est de s'imaginer que dans ce qui est ce chemin, cette progression vers ce qu'on sera un jour, le but c'est de faire plaisir à Dieu ou de ne pas lui faire honte en n'étant pas assez bien. Hein. Ça c'est quelque chose qui est faux. Et dans la motivation et dans la réalité. On ne progresse pas, on ne devient pas un peu plus comme lui chaque jour pour lui faire plaisir. Parce que ce n'est pas ça qui lui fait plaisir. Il nous voit à travers ce que Christ a fait, il est satisfait avec nous. Hein. Je pense que les parents, on peut comprendre ça. Hein. Ce qu'on veut, c'est que nos enfants aillent bien, ce n'est pas qu'ils nous fassent plaisir. Donc s'ils sont en train de, bah, d'aller bien, bah, ils font ce qu'ils ont à faire, même si ce n'est pas nos goûts, nos choix, etc. On est satisfait avec ça. Et on est des parents imparfaits. Donc on ne progresse pas dans nos vies pour faire plaisir à Dieu, il est déjà content avec nous. Hein. Et puis, on n'essaie pas de devenir meilleur pour rendre un bon témoignage, parce que si on était parfait, oh, il y aurait un bon témoignage. Hein. Je crois qu'une des choses les plus violentes que j'ai entendues dans ma vie, c'est un jour une dame qui m'a présenté, donc une dame plus âgée que moi, qui m'a présenté sa fille, plus jeune que moi, mais qui avait déjà des enfants, et qui venait de divorcer parce que son mari était parti avec une autre jeune femme, donc je ne dis pas qu'elle y était pour rien, je ne connais pas l'histoire, mais enfin, elle était quand même victime de ce divorce. Et puis, cette dame-là m'a présenté sa fille en me disant, tu vois, à cause d'elle, 30 ans de témoignages sont détruits. Puis moi, j'étais déjà devant sa fille, c'était horrible. Hein. Je dis, oh ! Et en plus, je dis, mais quel témoignage ? Témoignage de quelqu'un qui a honte de ses enfants quand ils ne vont pas bien ? Et c'est censé rendre gloire à Dieu, une chose comme ça. C'est terrible. Hein? Non, ce qui rend gloire à Dieu, ce n'est pas le fait qu'on donne l'impression qu'on est parfait dans un monde où personne ne l'est. C'est le fait que justement, on n'est pas parfait et que quand on tombe, quand on fait des erreurs, quand quelque chose ne va pas, ben on est comme tout le monde, sauf que Dieu nous aime quand même. Hein? Donc, ce désir de faire des progrès dans la vie chrétienne, il ne doit pas être motivé par « ah ben comme ça, les gens diront que Dieu est vrai parce que moi je suis presque parfait ou que je fais des progrès ». Ce n'est pas ça. Hein. Mais pourtant, on est encouragé à faire des progrès. Hein. Jean dit dans le verset 3 du texte que j'ai lu, « quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur ». C'est-à-dire parce que Dieu dit que je suis quelqu'un que je suis son enfant, tout simplement, et puis qu'il m'aime. parce qu'un jour je serai réellement sans mes défauts, mes péchés, mes erreurs, mais tout ça. Cet amour-là que je reçois sans condition va produire en moi naturellement, si je le reçois, hein, si je reçois cet amour, il va produire en moi cette envie quand même d'avancer, de progresser. Hein. Et ce que j'aimerais laisser ce matin, c'est un petit peu comme une vue d'ensemble des différents éléments qui font que dans nos vies, on peut progresser. Donc rappelez-vous, pas pour que Dieu nous aime plus, ça c'est pas possible, c'est déjà fait. Pas pour que les autres disent « Oh, qu'est-ce qu'il est bien, on s'en moque. Hein. » mais juste parce que c'est la vie normale, c'est d'évoluer vers. Hein. Quand on plante une semence d'arbre, y a tout dans la génétique déjà qui est là dans la semence. Un jour, il y aura l'arbre. Vous savez que je suis un amoureux des arbres. Et entre, il va y avoir la petite pousse, les deux feuilles, les trois feuilles, la tige avec quatre feuilles, les deux petites branches, et puis toutes les étapes jusqu'à ce qui est le bel arbre, selon l'arbre, plus ou moins grand, plus ou moins vieux, plus ou moins d'une façon ou d'une autre. Quoi, hein. Et donc, dans ce qui est donc le point du milieu, sur ces trois points, hein, ce que Dieu dit que nous sommes, ce que nous serons un jour, et sur le voyage, je pense qu'il y a, en tout cas, je l'ai découpé comme ça. Il y a deux aspects qu'il nous faut mener de front, mais deux aspects qui sont parallèles. Alors, je suis mauvais en maths, mais vous savez ce que c'est, deux droites parallèles. Hein, c'est deux droites qui sont côte à côte, mais qui ne se rencontrent jamais. Elles restent toujours côte à côte, mais jamais elles se coupent. Hein. Et de nombreux sujets dans la Bible sont parallèles. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas un peu de ça, un peu de ça. Hein, ils sont pleinement ça, et puis ils sont à côté. Et puis débrouillez-vous avec, mais ils avancent en même temps. Et donc ces deux aspects, c'est d'un côté le dépouillement de ce qui n'est pas bon, hein, c'est-à-dire enlever ce qui est en trop, le superflu, et de l'autre, les soins à donner au développement de la nouvelle vie. Je vais l'illustrer de façon très simple, hein. Le dépouillement de ce qui est mauvais, c'est-à-dire que dans nos vies, qui sont ce qu'elles sont, il y a des choses qui empêchent le fait que je sois transformé à l'image de Christ. Et dans ces choses-là, c'est un peu compliqué quand même. J'aurais aimé avoir un tableau, mais je n'ai pas eu le temps de le préparer. Et puis avec la caméra, on m'a dit que ça n'irait pas. Il y a encore deux catégories. Dans les choses que je dois éliminer de ma vie, tout simplement, il y a les choses qui sont mauvaises. Évidemment, entretenir de la haine, convoiter la femme de mon prochain ou de quelqu'un d'autre. Le mal, j'allais dire, basique, classique, que tout le monde connaît, plus ou moins avec les 10 commandements ou autre, hein, que qu'on soit croyant ou pas croyant, on est presque tous d'accord sur le fait que c'est mal. Hein. Voilà, mon voisin a une plus belle voiture que moi, mais j'ai pas le droit le soir et ma clé d'aller rayer sa carrosserie parce que je suis jaloux. C'est mal. C'est du mal basique, méchant. Je vois passer quelqu'un que j'aime pas, je mets le pied, il bronche, il tombe, il se casse dedans. Ça me fait plaisir. Ça m'est arrivé. Mais c'est pas quelqu'un qui l'a fait, j'ai fait tout seul. Ça c'est le mal basique, on sait ce que c'est. C'est clair que si je fais le choix de pratiquer ces choses-là, ça ne va pas aider à ce que j'aille mieux dans ma vie spirituelle. Je ne vais même pas en parler, on le sait. Hein. Des fois on le fait, ça m'arrive de choisir d'être égoïste, de choisir d'être jaloux, de choisir d'être mesquin, je le fais. Voilà. Je vis avec les conséquences, c'est comme ça. Mais il y a une deuxième partie dans ce dépouillement de ce qui n'est pas bon, et là c'est plus difficile. Parce que ce n'est pas du mauvais. C'est choisir d'élaguer dans nos vies des choses qui ne sont pas mauvaises, mais qui prennent trop de place. Hier, j'ai ma nouvelle voisine qui m'a appelé en me disant « Monsieur, s'il vous plaît, c'est une partie de mon terrain que je ne vois pas dans le coin au fond, vous pourriez venir tailler vos petits arbustes, vos saules et vos noisetiers parce que mes cassis, mes résinés, ils n'ont plus de soleil. » Et puis, j'aurais rien cette année, déjà que ce n'est pas une année très ensoleillée jusqu'à maintenant. Est-ce que vous pourriez venir les tailler, quoi? Puis j'étais voir, waouh, c'est la jungle, effectivement. Ça dépassait de plein de mètres au-dessus. Ils étaient carrément à l'ombre. Hein. Donc, c'est pas que les noisetiers, c'est pas mauvais, hein, c'est bon, c'est bien. Les noisettes, les sols, c'est super. J'avais pas vu que j'avais des sols, je vais pouvoir faire des paniers l'an prochain, c'est super aussi. Mais ils avaient pris tellement de place que les résinés de ma voisine ne pouvaient plus mûrir. Et dans nos vies, il y a des choses qui ne sont pas mauvaises. Elles sont bien, elles sont belles, elles sont utiles. Sauf qu'elles ont une place tellement grande qu'elles empêchent la vie de Dieu en nous de pousser. Et là, c'est plus compliqué parce que c'est très proche de ce qui a pu nous faire du mal, qu'on appelle le légalisme. Il ne faut pas. Mais ce n'est pas dans ce registre-là, parce que ce n'est pas le mal. Le mal, c'est le mal, ok, on sait ce qu'il faut faire. C'est juste, on a tous une vie avec un certain nombre de jours, dans une journée, le même nombre d'heures, de minutes et de secondes. Et si je ne prends pas intentionnellement la décision de tailler certaines choses, il n'y a plus assez d'espace, de temps et de lumière pour le reste. Et ça, c'est quelque chose où on peut demander des avis, des conseils si on a envie, mais c'est quelque chose qui doit se faire tout seul, à la fin. Là, dans mon cas, c'est la voisine qui a trouvé que ça empiétait sur ses cassis, elle avait raison, donc j'ai été taillé. Mais dans nos propres vies, c'est nous qui devons dire, en ce moment, j'ai laissé ça trop pousser. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais... Et puis c'est vrai que selon les tempéraments, il y a des gens qui sont modérés dans tout, donc c'est plus simple. Moi, j'ai beaucoup de mal parce que ou je fais rien, ou quand je fais une chose, je la fais de façon excessive, et puis il n'y a plus que ça. Et puis c'est compliqué, parce qu'après, il faut tailler, mais faire comme petit peu, ça ne m'intéresse pas, laisse-le. Mais on est tous différents avec ça. Mais c'est une chose à penser. Donc si je résume, déjà pour ce premier point, vous vous rappelez, il y a point 1, point 2, point 3, on est dans le point 2. Dans le point 2, il y a dépouiller de ce qui n'est pas bon, et on va voir après nourrir la vie. Et dans ce point de dépouiller, il y a abandonner le mal, bien sûr, et puis il y a ce côté de faire des choix, tout simplement. Vous vous rappelez, je le cite toujours, la phrase que mon meilleur ami m'a dit le jour de mon mariage, se marier avec une femme, c'est renoncer à des millions d'autres. T'en choisis une, tu laisses les autres. Donc un choix, c'est toujours renoncer par définition, mais vu que nous sommes dans le temps et l'espace, on doit faire des choix et décider ce qu'on doit mettre de côté pour qu'il reste ce qui est important. Et c'est pour ça que personne ne peut le faire pour nous, mais on a besoin d'y penser parce que des fois, on ne s'aperçoit pas qu'on est envahi et qu'il n'y a plus de place. Ensuite, le deuxième travail qui est parallèle avec celui qu'on vient de voir, c'est donner à la vie de Dieu en nous ce qu'il faut pour qu'elle se développe. Parce que ce texte nous dit, nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Pas nous le deviendrons, pas nous le serons un jour si peut-être nous faisons assez bien, nous le sommes. Lorsque un enfant est conçu, il est là, c'est irréversible. Il peut décevoir ses parents, il peut se fâcher avec ses parents, il peut partir à l'autre bout de la planète et dire « mes parents ne sont plus mes parents ». Tes parents, ça sera toujours tes parents et tu es fait par eux et puis c'est ton fils, c'est ta fille. Et donc, si nous avons consenti un jour à ce que la vie de Dieu vienne remettre de la vie dans notre esprit, que nous avons été une fois reconnectés avec lui, alors nous sommes ses enfants. On peut être ces enfants qui vont bien, ces enfants qui vont mal, ces enfants obéissants, ces enfants désobéissants, ces enfants partis manger avec les cochons ou ces enfants. On est ces enfants, nous le sommes, c'est une réalité. Maintenant, nous pouvons faire le choix d'essayer de donner à cette génétique nouvelle qui a été mise en nous les meilleures conditions pour qu'elle porte les meilleurs fruits. Là aussi, si on reprend l'exemple de l'agriculture et de la nature, si je prends une graine de tomate et que je la jette, s'il y a un peu de terre, elle va pousser parce que la tomate, c'est incroyable, ça pousse partout, tout le temps, ça se débrouille. Mais je peux avoir un petit plant rabougri ou alors quelque chose de beau, quelque chose de magnifique parce que on sait qu'elle a besoin de tant d'azote, tant de lumière, tant de ci, tant de ça, etc. Et si je lui donne tout ce qu'il faut, elle va être au maximum de son potentiel génétique magnifique. C'est pareil, la vie de Dieu qui est en nous, une bonne nouvelle, elle ne peut pas mourir, c'est une semence incorruptible qui ne meurt pas. Donc, si j'en fais rien, ça reste une petite semence, mais elle ne va pas mourir. C'est pour ça que la crainte de l'enfer, des flammes, etc., ce n'est pas un sujet. Ce n'est pas pour ça qu'on veut que ça aille bien. Ça nous est garanti sans qu'on y soit pour quelque chose. C'est un cadeau, point à la ligne. Mais par contre, c'est quand même dans notre intérêt, j'allais dire même égoïste, de pouvoir se développer, que le potentiel qui a été mis en nous, génétiquement, avec la vie du Christ, se développe. Et là, j'ai juste listé quelques points qui me paraissent essentiels. L'idée, enfin, tu vois, moi, c'est comme ça que je l'utilise, c'est de temps en temps de jeter un petit coup d'œil à cette espèce de checklist en me disant oups, oula, ce point-là, ça serait bien que je reprenne un peu, quoi. Hein. Parce que, alors peut-être vous êtes tous, pas peut-être, vous êtes sûrement tous beaucoup plus disciplinés que moi. Je ne suis pas quelqu'un de discipliné, je suis très instinctif et quand je mets de l'énergie dans un point, j'ai tendance à oublier les autres. Hein. Et puis là, c'est un peu une vue d'ensemble, c'est plus un outil ce matin qu'un repas tout prêt comme je fais d'habitude. Et la première chose, et ça c'est difficile, mais qui est le préalable à tout le reste, c'est du temps intentionnellement mis à part. Il n'y a pas de raccourci pour ça, il n'y a pas de comment on appelle ça, d'ersatz ou de... Le temps, c'est le temps. Hein. On ne peut pas remplacer le temps par autre chose. Il y a des choses qu'on peut, voilà, on peut remplacer. J'ai pas ça, j'ai pas de stylo, je peux écrire à mon ordinateur, ou j'ai pas d'ordinateur, je peux prendre un stylo. Et j'ai pas de couteau, je peux prendre une hache, j'ai pas de hache, je peux prendre un couteau pour faire plus ou moins le même travail. Le temps, il n'y a pas quelque chose de similaire qui remplace le temps. On ne rachète pas le temps avec de l'argent, avec des cadeaux, avec je ferai plus après. Non, le temps, c'est le temps. On a tous le même capital temps, en tout cas tant qu'on est vivant, hein, dans une journée. On n'a pas tous les mêmes conditions, les mêmes, pour certains, c'est plus de travail que d'autres, c'est sûr. Mais voilà. Donc la première chose, c'est de décider que je vais, sur mon capital temps, je vais en prendre une partie pour nourrir cette vie qui est en moi. Là encore, personne ne peut dire c'est le matin de 7h à 8h, c'est à midi, c'est le soir avant de se coucher. Ça ne regarde que vous. Hein. Trouvez ce qui marche pour vous dans le moment présent. Pour certains, c'est que le matin en se levant, c'est là qui... Oh, c'est bien. D'autres, c'est un autre moment, peu importe. Mais le temps, il n'y a pas de raccourci. Il faut avoir du temps. Certains, c'est des petits bouts fractionnés, d'autres, c'est un gros morceau, mais on doit dégager du temps. Hein. Et puis, juste après le temps, donc le temps, ce n'est pas quelque chose en soi, mais c'est, sans ça, le reste n'est pas possible. Il y a autre chose, c'est le consentement à la présence et à l'œuvre de Dieu en nous. Ça, c'est un peu délicat parce que ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer facilement, mais c'est une disposition qui fait que, oui, je veux bien être conscient que tu es là. Lui, il est toujours là, mais je veux bien être conscient que tu es là. Hein. Alors, dit comme ça, c'est étrange parce qu'on se dit, ben, quel chrétien ne voudrait pas que Dieu soit là ? Ben, peut-être, alors là, encore une fois, je suis quelqu'un de spécial, mais moi, il y a des fois, je n'ai pas envie que Dieu soit là. Hein. Pourquoi ? Parce que j'ai juste envie d'être comme moi je suis, et puis j'ai envie de faire ce truc-là, bof, qui est moyen. Je n'ai pas envie de m'embêter avec me demander si c'est bien, si c'est pas bien. Hein, voilà, j'étais au culte dimanche, j'étais à la réunion de prière mercredi, puis le reste qui me fout la paix, je fais ce que j'ai à faire, je vole personne, je suis honnête. Je ne vais pas passer mes journées à me dire « t'es là ? T'es pas là ? Ouais, t'es là ? Qu'est-ce que t'en penses ?» Hein, alors, c'est fatigant. Hein. Et en même temps, c'est ça qu'il veut, vivre avec nous. Pas que quand ça va bien. Hein. Justement, si vous aimez ce sujet, le prêtre Henri Nouwen développe ça de façon admirable. Il dit, la maturité, ce n'est pas de plus chuter, c'est d'accepter de chuter dans la présence de Dieu. Hein. C'est-à-dire que je consens tellement à sa présence que j'accepte qu'il soit là même quand j'y arrive pas, même quand je suis nul, même quand je lui en veux, même quand j'ai fait les mauvais choix, j'accepte qu'il voyage avec moi dans ce moment-là. Et c'est pas simple. Parce que nous, on aime bien, quand on y arrive, hein, et puis d'aller le voir avec une belle prière, « Seigneur, je te demande aujourd'hui, et puis je te remercie. » Parce que puis là, on sent bien, parce qu'on y est arrivé un petit peu, on a réussi quelque chose, on l'a fait, puis on parle à Dieu. Pas d'égal à égal, on est quand même plus humble que ça, mais quand même de grand chef à petit chef. Quoi, hein. Mais quand on est dans le trou, parce que on n'en a plus envie, on est découragé, on est fatigué, on en a marre, on n'y est pas arrivé, etc., etc. Et dans ce moment-là, avant d'être mieux, parce que si j'arrive à aller mieux tout seul, pourquoi j'aurais besoin de Dieu, hein, de dire à Dieu, Coucou, c'est encore moi. C'est ça, marcher dans la lumière. Oui, je sais, je suis là parce que j'ai fait des mauvais choix. Oui, ça fait 300 000 fois que c'est la même chose. Oui, je suis encore retombé là-dedans, etc. Et je ne sais pas si un jour je m'en sortirai, mais voilà, c'est moi comme je suis. Coucou. Et Dieu dit, tu es mon enfant. Hein? Tu l'es. Alors oui, tu es mon enfant sale aujourd'hui, tu es mon enfant pénible, tu es mon enfant qui me casse les pieds, mais ça ne change rien, tu es mon enfant et je t'aime, tu es mon enfant. Et ce n'est pas facile. Hein? Et puis aussi, ces périodes, elles sont rares dans la vie d'un humain, mais de temps en temps où ça va bien, vous savez, ces petites parenthèses courtes, un quart d'heure, des fois une semaine, hein? Ça va à peu près bien. Les enfants vont pas trop mal, j'ai de quoi payer les factures, j'ai pas trop mal nulle part, un tout petit peu. Y a pas de crise particulière, je vais à peu près bien, tout va bien. Et là non plus, j'ai pas spécialement envie qu'ils soient là. Je vais bien, hein, je peux faire ça, voilà. Et puis quand ça ira moins bien. Donc du coup, si on ne consent pas à sa présence quand ça va très bien, ni quand ça va très mal, il n'y a plus beaucoup de moments, hein. On se retrouve avec ben voilà, les moments religieux. Ah, le dimanche matin, on va louer Dieu. Alors là, il faut, on fait la toilette du dimanche, on met les habits du dimanche, on met les pensées du dimanche, et on fait un petit effort pendant une heure. Pour, voilà. Et puis après, ciao. Hein? Non. Donc, consentir à sa présence, ben, j'en parle souvent, mais c'est à son œuvre, au fait qu'il soit là avec nous, à développer. Le point d'après, parce que je ne vais quand même pas vous garder toute la journée, c'est la cueillette des éléments nutritifs pour la vie qui a été implantée en nous. Et là, c'est très, très, très varié, et c'est super parce que Dieu aime la variété. Hein. Alors oui, ça peut être écouter un message, bien sûr, c'est lire la Bible ou l'étudier, mais c'est aussi des milliers d'autres choses. Hein. C'est l'observation de la vie de tous les jours. Hein. Il y a un chant, j'ai oublié comment il fait en entier, mais à un moment, il y a cette phrase que j'aimais beaucoup, qui dit « Reconnaître ta main à chaque instant du jour. » Dans tout ce qui est là, dans plein de choses, parce que Dieu est partout, hein, tout le temps. Donc, recueillir les éléments, faire la cueillette des éléments nutritifs pour notre vie spirituelle, c'est lié avec les points précédents. Hein. Ça veut dire que j'ai un esprit attentif à être conscient de la présence de Dieu. Et du coup, je vis ce que je vis, que je sois en train de travailler, de promener, d'être en vacances, de passer par une épreuve, de parler avec quelqu'un. Je vis ça dans la conscience de sa présence et tout me parle. Un détail dans la nature, dans la création, mais peut-être un détail dans le travail technique que je suis en train de faire, un mot dans une chanson que j'entends, une parole dans un livre, une phrase dans un livre que je lis, pas forcément un livre chrétien, une situation, tout peut nous parler. Hein, et on recueille, et bien sûr ça n'a pas la même place qui fait autorité que ce que la Bible enseigne, mais c'est un tout. Hein. Et donc je recueille des éléments nutritifs en se rappelant que faire les courses, c'est essentiel. Cuisiner, c'est important. Mais le but, c'est de manger. Et là, il y a quelque chose de mystérieux. C'est le travail de l'esprit en nous. J'ai parlé un petit peu d'être rempli de l'esprit dernièrement. Parce que souvent, les évangéliques, ils se contentent de faire les courses et de ranger et d'entretenir le frigo. Les laitages avec les laitages, les légumes avec les légumes, les produits frais avec les produits frais, les légumes là, les légumes verts, les légumes rouges, il n'y en a pas dans le frigo. Et puis voilà, et puis régulièrement, on vide le frigo, on nettoie le frigo, on remet le frigo, on range le frigo, on va au marché, et il faut manger. Alors il y a des fins cuisiniers, il y a des cuisiniers moyens, il y a des cuisiniers médiocres, mais on doit manger. Hein. Et manger, c'est vivre de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu prenne ses éléments nutritifs, qui viennent de sa parole et de tout le reste qu'on a dit, et puis que ça soit transformé, hein, avec mon consentement en calories spirituelles. Sur le pacte de temps qu'on a mis intentionnellement à part, il faut du temps pour la tranquillité, le silence, l'écoute silencieuse. Pas quand on fait des choses pour Dieu, même pas quand on fait des prières d'intercession pour le voisin, les missionnaires, le chien malade, la grand-mère et le grand-père. Juste du temps, c'est très difficile de nos jours, où on dit à Dieu, que ce soit dans notre bureau, en marchant ou entre lits, hein, je te donne ce temps, pas pour dire des choses, pas pour faire des choses, juste j'ai envie de rester comme les amis de Job au début, avant qu'il parle, hein, à tes côtés, sans rien dire. Voilà. on va passer ce moment ensemble. Tu veux me dire quelque chose ou pas, juste on va prendre du temps ensemble. Ça s'appelle la méditation, la prière contemplative, appelez-le comme vous voulez, il y a plein de vocabulaire, trouvez le vôtre, hein. C'est très très important. Et ça, ça ne se fait pas non plus sans temps mis à part exprès pour ça, parce que ça ne peut pas se faire tout seul. Et puis, le dernier point, mais pas le moindre, c'est ce qu'on appelle traditionnellement la vie communautaire. Et je ne parle pas ici de venir s'asseoir le dimanche matin pour m'écouter. Je parle d'avoir des relations vraies et authentiques avec d'autres personnes qui sont entre le point 1 et le point 3, dans le point 2, en voyage. Parce que vous savez, si vous avez fait des randonnées ou des choses comme ça, quand vous arrivez le soir dans un refuge, en montagne ou ailleurs, et puis que vous êtes à table avec des gens que vous ne connaissez pas, mais qui sont aussi des voyageurs ou des randonneurs, de quoi on parle en général ? Bah, de tout, mais de randonnée. Tu connais le col de Mach ? Ah, tu l'as pris par route ? Ah, ben, moi, c'est par le petit... Ah, ben, tu sais, si tu le prends par l'autre côté, tu as une meilleure vue. Sur... Vous avez vu les marmottes en route ? Vous avez pris de l'orage, attention, ça glisse là-bas, la neige a fondu ou pas ? On parle du voyage parce qu'on fait la même chose. C'est indispensable dans la vie des enfants de Dieu de passer du temps avec d'autres enfants de Dieu qui sont en voyage et puis d'échanger dessus, de partager. Parce que souvent, une de nos difficultés, c'est qu'on est toujours persuadé d'être les seuls à vivre ça. Puis on a honte, il n'y a que moi qui vis ça. Le jour où finalement je fais une chose extrêmement courageuse, j'en parle, et je ne parle pas de détails intimes qui doivent rester intimes, hein, je m'aperçois que la personne en face me dit « Ah, toi aussi ?» Puis si on est 3, les 2 disent « Ah, toi aussi ?» Puis si on est 10, les 10 disent « Ah, toi aussi ?» Si on est plus de 10, ça ne marche pas parce que plus personne ne dit rien. Il faut être moins. Mais c'est important, c'est important. Il n'y aura jamais de raccourci aux relations humaines. Dieu est relationnel. La Trinité est relationnelle. Christ, il est venu, il ne nous a pas envoyé un livre, hein. C'est super, je me réjouis qu'il y ait des gens qui nous écoutent sur Internet parce que sinon, ils ne pourraient pas nous écouter. Ben, ils peuvent recueillir des éléments nutritifs, mais ça ne remplace pas. Échanger, vivre, être en communion, être connecté avec d'autres voyageurs. Ça peut se faire ailleurs qu'ici, hein, attention. Hein. C'est personnel, le monopole, il n'y a pas l'exclusivité. Jésus dit 2-3, donc ça veut dire plus de 1, quoi, au moins. Et puis jusqu'au nombre qu'on veut. Hein. Ce n'est pas possible à 100, encore moins à 1000. On peut se nourrir à 1000 ou à 100. On ne peut pas échanger, partager, vivre la fraternité, la fratrie, hein, et la sororité, pardon. Non, il faut ça. Alors, ça fait comme une longue liste ce matin. Hein, je vous ai dit, ce n'est pas trop mon habitude. Mais j'aimerais vous laisser avec ça, et puis peut-être ben, le reprendre ou le mettre comme ça. Puis, tranquillement, sans condamnation, bien sûr, chacun dans nos vies, se dire, ben... J'en suis où avec ça ? Je fais quoi avec ça ? Et puis, quand on voit que quelque chose, ben, ça y est pas, surtout pas se condamner, la condamnation ne donne aucun pouvoir de changer, ben, pratiquer les points 1 qui sont « je reviens à Dieu ben, », tu vois, ma vie, elle n'est pas équilibrée, ben, forcément, c'est moi, mais voilà, je viens devant toi, puis on va essayer de remettre un peu les choses pour qu'on puisse continuer, puis je vais en parler avec les autres, et puis... C'est ce qu'on vit déjà, hein, mais juste c'est un encouragement à continuer là-dedans. Alors Seigneur, on te remercie parce que ben, tu nous as fait complexes, tu n'aimes pas les choses bêtes et simples, et tu nous as fait tous différents. En même temps, il y a des choses qui sont communes à tous les êtres humains. On veut surtout te dire merci parce que tu n'as pas honte d'être notre Père. Je ne sais pas comment tu fais, moi j'aurais honte, mais toi non. Et puis ben, apprends-nous à vivre de toi, à vivre dans la liberté, à vivre dans cette conscience de ta présence. Et puis apprends-nous à vivre aussi les uns avec les autres, avec respect, avec bienveillance, mais à échanger, à partager, à nous encourager. Parce que nous t'avons en commun, c'est ça qui nous lie, Seigneur, c'est la seule chose. Et puis merci pour ce moment. Amen.